I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cassandre était, ouais, sans doute au travail, à la maison, elle était en télétravail. Moi, je rentre du bureau et puis je vois sur la cuisine, là, le bar de la cuisine, une petite boîte. Bon, avec ouvre-moi. Bon, là, je commence à cogiter, je crois comprendre, mais besoin d'ouvrir cette boîte-là pour être sûr. Et puis je vois le test de Moses avec marqué « Si t'as pas compris, tu vas être papa ». Donc là...
C'est trop mime ce qu'elle t'a mis.
Parce que au cas où... Tu sais, deux barres. Oui, bah il y a deux barres, quoi. Enfin, je sais même
pas si... T'aurais pas mis un test de grossesse négative dans une boîte. Ouvre-moi. Eh bien non, c'est une erreur. C'est négatif.
Poisson d'avril.
Oui, c'est ça.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute.
Salut JR.
Salut Fab.
Bienvenue.
Eh ben merci en tout cas de m'accueillir.
Bah, avec grand plaisir.
Eh ben pareil.
Hier, tu m'as envoyé un message pour me dire que tu étais daron à 48 ans. Ah non, donc un peu plus tôt parce que ton fils a
il va avoir 2 ans et on l'a eu, mais alors attends, c'est pas l'année dernière, en 2022. Mm. Donc j'avais 47, j'allais les avoir.
Ok, donc tu étais daron à 47 ans et on va dire que globalement, si je lis un peu ton histoire, t'as eu une histoire en rapport d'une manière générale avec tes pères et avec la paternité qui est un peu complexe, quoi.
C'est ça. Donc, je reviens au tout début.
Si tu veux, ouais.
Okay. Oui, en fait, j'ai eu un père que je n'ai plus, mais je l'ai perdu assez tôt, même très tôt. Bah, c'est toujours trop tôt, de toute façon, on va dire. Mais là, je devais avoir 4 ans.
Ce qui est très tôt. Hein.
Très tôt. Il est mort dans un accident de voiture. Donc, tu vois, on ne peut pas s'y préparer. Puis, de toute façon, je ne sais pas si on peut vraiment s'y préparer. Et je crois qu'à l'époque, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Un peu normal à 4 ans. Et alors, comme tu l'as dit, je ne suis pas tout jeune. Bah, tu n'as pas dit ça, mais dans les années 70, je pense que la psychologie de l'enfant n'était peut-être pas trop prise en compte. Donc, on ne m'a pas trop expliqué vraiment ce qui se passait. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on m'a dit... Il est parti pour un grand voyage.
Waouh!
Au ciel, quoi. Le voyage. Oui. Mais toi,
ça veut rien dire.
Mais ouais. Alors,
pour un enfant.
Peut-être qu'on m'a expliqué après, mais tu vois, j'ai pas vu de psychologue. À l'époque, ça se faisait pas. J'ai juste vu une orthophoniste et tout. Mais en fait, j'ai grandi avec un petit peu. Enfin, ça, c'est l'adulte qui parle, mais avec un sentiment d'abandon, quoi. Mmh. Le père qui est parti, qui ne revient pas. Et au final, eh ben. Bon, longtemps, ça a été un manque. je vais pas te spoiler, mais enfin, je me suis toujours dit que peut-être que ma vie aurait été meilleure si j'avais eu ce père, enfin s'il était resté. Mmh. Voilà. Donc j'ai cheminé là-dessus, mais
c'est dur comme ouais. comme constat, quoi, tu vois. Mmh. Forcément.
Ouais. Mais je vais pas te spoiler. Je me dis que au final, c'est rien n'est garanti. Tu vois.
Oui.
Et donc oui, ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu une mère très aimante, mais tu vois, elle devait avoir 24 ans.
Elle était jeune, ouais.
Ouais, mère de deux enfants, à 24 ans, veuve, bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Mmh. Voilà, bon, pas simple. Donc ça, ça a été le premier abandon que moi que j'ai ressenti, ce manque. Après, ma mère, elle a laissé passer un petit peu de temps, et puis elle a rencontré un nouvel homme que j'aimais beaucoup, Jean-Christophe. Donc là, c'était un père, un beau-père, mmh. Original, on va dire. On le voyait, donc là je devais avoir 10, 11 ans, il venait d'une très bonne famille, lui n'avait pas connu son père aussi, il n'avait pas été reconnu, abandonné, mais ça l'empêchait pas d'être très, très affectueux. Mmh. Donc c'est vraiment une bonne relation que j'ai eue pendant quelques années, jusqu'à ce que ça s'arrête brutalement, malheureusement. Donc il n'est pas décédé, mais bon, c'était un homme d'affaires dans l'immobilier, plutôt véreux, et ben, il a fini en prison, quoi. Et donc, pareil, du jour au lendemain, plus
y a,
rien.
Il n'y a plus de père.
Voilà.
Enfin, plus de beau-père.
Ouais.
Plus de figure paternelle.
C'est ça. Et bon, ça a été douloureux, mmh. une nouvelle fois. Et du coup, j'avance un peu vite, mais j'ai eu un troisième beau-père. À l'adolescence, autant dire que difficile d'investir en relation après ces deux abandons, mmh. tu vois, tu te livres... Puis c'est l'adolescence, hein.
Bah
je
oui.
sais que t'as eu des ados, c'est plus difficile des fois, ouais. L'adolescence pour être, comment dirais-je, dans le lien. Mm. Bon, donc c'est toujours mon beau-père, alors on n'est pas très, ni distant ni proche, quoi.
Ok.
Donc il est très gentil, mais on n'a jamais fait des choses, tu vois, seuls ensemble. Mais quelqu'un de très gentil.
Et c'est sur cette base, en fait, que tu mmh. me racontes dans le mail que tu as découvert le podcast, mmh. parce que tu cherchais comment devenir père mmh. quand j'ai pas eu de figure paternelle, quoi.
Alors,
c'est ça?
Alors, il y a cette porte d'entrée, puis il ouais. y en a une autre, en écoutant... Alors, je sais plus... j'écoutais... Je crois que c'est... Attends, Étienne, qui, justement, n'avait pas eu de figure mmh. paternelle. Alors, ça, oui, je l'ai écouté, mais c'est ma compagne qui m'a parlé de ton podcast, mmh. Parce qu'en parallèle... suite à la naissance de mon fils, on va y venir. Bon, je me sentais. J'ai fait un petit burn-out. Enfin, mmh. en gros, il n'y a pas de petit burn-out.
Non, t'as fait un burn-out.
J'ai fait un burn-out. Et je ne sais plus qui, et j'ai écouté le podcast qui était en lien avec ça aussi. Mmh. Alors, moi, ce n'était pas un burn-out parental, mais c'était vraiment en lien avec mon boulot.
Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont ouais. accumulées, ça n'allait pas bien au boulot, donc forcément. Enfin, c'est une période qui est complexe pour tout le monde d'une manière générale, pour tous les parents.
Ah mais carrément.
Si t'ajoutes à ça effectivement un début de parentalité qui secoue aussi, quoi.
Ah bah alors, mais ça m'a mis une grosse claque. Mmh. C'est-à-dire que j'étais pas préparé, mais comme enfin on s'y prépare jamais. Mmh. Mais en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais pas comment j'allais réagir. Déjà, c'était vraiment un enfant qu'on avait désiré, même si j'avais pas eu ce désir de paternité. En fait, depuis le début.
Je voulais t'en parler justement.
Ouais.
Avant cet enfant, avant de rencontrer peut-être cette femme,
ouais.
t'avais jamais voulu d'enfant.
En fait, je me posais la question. Est-ce que j'en veux, j'en veux mmh. pas. Bon, sachant que ma compagne en voulait. Mmh. On était depuis 10 ans ensemble, mais j'avais peut-être besoin de ces 10 années, tu vois, pour donner ma confiance. L'engagement, c'est pas évident. Et après, c'est peut-être un traumatisme par rapport à mon travail. Mmh. Je sais pas si j'en parle.
Si tu veux.
Ouais. Donc, alors, je ne le suis plus, mais j'ai été éducateur spécialisé en protection de l'enfance pendant 18 ans. Donc, ce qui fait qu'on va au domicile de famille. Monoparental ou pas, en couple, qui rencontrent des difficultés avec leur enfant. Alors, de tout genre, ça peut être pour des ados, déscolarisation, et puis, en fait, la porte d'entrée, c'est surtout si l'enfant, lui, est en danger. Mmh. Donc, on voit ce qu'il y a un petit peu de pire.
Un petit peu de pire.
Je minimise, voilà, oui. Encore. Ouais. Non, bah, on voit des trucs trash, quoi.
Bah, oui.
Des choses horribles. Bah, je me suis retrouvé avec des pères pédophiles qui avaient abusé de l'enfant, avec des pères violents qui avaient tabassé l'enfant et envoyé à l'hôpital. Pour voilà, aucune raison. Mais dans la réalité, j'intervenais, et c'est ça qui m'a peut-être traumatisé, en majorité du temps, lors de conflits parentaux. Une séparation conflictuelle, où les enfants sont tiraillés entre le père et la mère, en conflit de loyauté, et puis des fois même instrumentalisés, on s'en sert pour faire mal à l'autre parent. Donc, autant dire que j'étais un petit peu flippé.
Tu m'étonnes que tu as du mal à nouer une relation et... Sur cette base-là, quoi, ben, de quotidien.
Tu te dis, mais moi, enfin, donc je constatais les dégâts, pas que sur les enfants, sur aussi le père ou la mère. Et je me dis, mais tu signes après toute ta vie avec cette personne-là. Enfin, t'as plus une relation de couple, mais t'as une relation de parents. Et ben, si elle te met la misère, c'est... Donc voilà, il m'a fallu 10 ans pour me rassurer.
T'as fait ce métier, je veux dire, dès le début de ta carrière, c'est ça?
Non, je me suis un peu cherché.
Okay.
J'avais fait un BTS qui n'avait rien à voir, dans le technico-commercial. Après, j'ai fait 5 ans en tant qu'animateur radio, en maison de retraite.
Okay.
Pas vraiment
incroyable.
Donc au service gériatrique, mais tout en faisant mes études d'éduc. Et après, tout de suite après mon diplôme, je suis parti travailler quelques mois au Québec. Et après, j'ai trouvé ce job-là et je l'ai fait pendant 18 ans.
Ok. Ouais. Je trouve ça fou, vu ton histoire, tu vois, que tu te sois retrouvé à aller travailler avec des parents et des enfants, quoi.
On dit que le hasard n'existe pas, tu vois.
Tu sais un peu pourquoi t'as fini par aller vers cette branche-là et d'aller finalement aider aussi des gamins, quoi.
Ah, mais carrément. Alors, c'était pas conscientisé au départ. Bon, il y a peut-être quand même une part de hasard. J'ai dû faire mon service militaire. Et bah, je l'ai fait dans le social en m'occupant des personnes handicapées. Alors, j'ai bien aimé l'approche et surtout l'idée de ne pas travailler pour un patron. Je veux bien donner de mon temps, de mon énergie, mais au final, si c'est pour enrichir quelqu'un ou m'enrichir moi-même. Enfin, m'enrichir moi-même, ça m'irait, mais en enrichissant un patron. Bon. Et j'ai trouvé que c'était sympa comme métier, pas trop compliqué. Il suffit de discuter. Enfin, c'était l'idée que j'en avais.
Ouais.
Et je me suis lancé dans les études, et sans doute que la protection de l'enfance, j'avais le choix, je pouvais choisir d'autres domaines, bah, c'est peut-être venu dans cette volonté de... Alors, je vais pas faire ma psychanalyse, mais d'aider l'enfant que j'ai été, peut-être à un moment donné.
Tu peux faire ta psychanalyse ici, hein, tu vois. En tout cas, l'idée, c'est de s'introspecter un petit peu, quoi, tu vois. Oui, effectivement, tu...
Il y a peut-être un lien, après, bah, savoir.
Ah oui, sans vouloir tirer par les cheveux le truc, tu vois, mais de réfléchir un peu à ça, quoi.
Ouais.
Ok, donc, et sur cette base-là, de travail, etc., donc d'éduc, entre-temps, tu rencontres ta compagne.
Ouais.
Pendant 10 ans, vous avez une relation ensemble. Toi, pendant ces 10 ans-là, vous discutez ensemble de faire des enfants, pas faire des enfants
Ouais. Alors après, on a 13 ans d'écart. Donc, elle avait le temps. Et puis, bon, elle venait de finir ses études, elle avait trouvé un premier job qui n'était pas à Rennes, mais à Quimper. Et on s'est mis ensemble 2 ans après, donc ça doit faire 10 ans qu'on habite ensemble. Et on en a parlé, puisque je savais que elle, c'était important pour elle. Et bon, j'étais prêt. C'est, en préambule, je te disais que pour moi, la vie, c'est comme un voyage. Et dans ce voyage-là, il y en a plusieurs. Et j'étais prêt à tenter, à un moment donné, ce voyage-là, de découvrir un petit peu la paternité, mais avec ses craintes. De savoir comment j'allais réagir aussi, avec un petit peu mon passé.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Et t'avais réussi entre guillemets à faire la paix avec justement cette toutes ces figures paternelles qui t'ont abandonné, ou en tout cas t'as eu la sensation d'avoir été abandonné par elles, et de te dire comment je vais faire moi, quoi. Ça a été ça?
Non.
Ok.
En tout cas pas au début.
Ouais.
Je te dirais aujourd'hui oui, ça ouais. y est. Mais parce que il s'est passé quelque chose. Mais j'ai grandi avec l'idée que ma vie aurait été meilleure si mon père n'était pas décédé. Et bon, on peut quand même spoiler le truc.
C'est dur ça, comme pensée, je veux dire. C'est un vrai truc de regret incroyable de « et si, quoi », tu vois.
Bah, carrément.
Wow.
Et j'étais pas tranquille avec ça. Après, je t'avoue, comment de la naissance, j'ai eu besoin d'être accompagné. Donc, dans mon métier, c'est assez courant. Donc, aucun souci d'aller voir un psy. Et il m'a soutenu sur les premières difficultés. Puis aujourd'hui, on est plus sur une phase d'introspection et de psychanalyse. Et donc, j'ai des clés un petit peu de réponse. Et puis, j'ai aussi discuté avec ma sœur d'un secret de famille. Et au final, il ne m'a pas fait mal, ce secret de famille, mais il m'a soulagé. Alors, je vais te le livrer, parce qu'il n'est plus trop secret. Et puis, c'est que j'ai appris qu'au moment où mon père est décédé, il avait une relation extra-conjugale avec une autre femme au travail. Et en fait, ça m'a profondément choqué, parce que tu vois, quand tu n'as pas de père, tu vas l'idéaliser. Et là, je me dis, mais au fait, c'était peut-être pas aussi bon exemple que ça.
Alors, t'as appris ça à 45 ans, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Ouais, parce que ma sœur ne le savait pas depuis trop longtemps non plus. Hein.
Et ta mère, vous en avez jamais parlé?
Non. Non.
Ok.
Bah pour nous protéger sans doute ou.
Bah ouais. je trouvais. Enfin je me dis ok ça pourrait être normal de ne pas vous en parler quand vous êtes petit et tout tu vois mais à partir d'un certain âge quand vous êtes en capacité de venir comprendre quoi tu vois.
Ouais. Je suis d'accord. Ok. Ouais. Et au final je me suis dit mais parce que j'ai été élevé par une femme essentiellement donc tu vois une approche assez aimante, quoi. Enfin, oui, j'aime me décrire comme féministe, quoi, mais c'est pas qu'un mot, hein. C'est que, enfin, pour moi, il n'y a rien de plus beau, quoi, que l'amour d'une mère, puisque j'ai pas eu l'amour d'un père, sans doute. Mais je me dis qu'à l'adolescence, peut-être que ça serait mal passé avec mon père, en apprenant, tu vois, peut-être ils seraient séparés à un moment donné. Et j'aurais appris ce secret bien plus tôt, peut-être à une époque où j'aurais réagi plus violemment, tu vois. Et au final, je me dis, je suis peut-être une meilleure personne aujourd'hui que je ne l'aurais été avec ce père. Donc, ça m'a permis de faire peut-être le deuil d'un père idéal, qui n'existe nulle part peut-être.
Ok.
Donc, au final, ça m'a servi. Et oui, ça y est, je suis en paix avec ça. Et puis, essentiellement lui, quoi, parce que mon beau-père qui est parti en prison, c'était pas le même lien, c'était pas les mêmes attentes aussi, peut-être, de ma part. Quoi.
Bien sûr.
Donc,
mais disons que ça fait un peu bis repetita, quoi. Ouais. Il y a un peu un côté putain de merde. Ok.
Et alors, ça, au départ, ça peut-être à la naissance de mon fils déclenché certaines angoisses de ma part.
Que t'avais pas vu venir avant pour le coup.
Ah non, non vraiment pas là.
Mais même je veux dire à l'annonce de la grossesse. Enfin, tu vois, il y a quand même quelques étapes où d'un coup d'un seul, il y a la réalité qui vient. J'aime bien discuter avec les darons de. Comment ils vivent cette grossesse-là qui est complètement différente de la façon dont les mères le vivent, tu vois, d'une manière générale. Il n'y a pas un moment donné où toi, ça vient te... Ok, donc en fait, ça y est, je vais devenir papa, quoi.
Alors si, mais pour l'instant, il n'y avait pas d'inquiétude. J'avais pas encore fait sauter les verrous. Parce que, peut-être qu'aujourd'hui, je me décrirais comme très sensible. Hypersensible, je sais pas, c'est peut-être galvaudé comme terme, mais j'ai une sensibilité à fleur de peau, j'ai peut-être toujours eu, mais que j'arrivais à garder sous cloche, tu vois. Pas volontairement, inconsciemment, quoi. Je me disais pas, je suis un super bonhomme, Enfin, pas du tout, quoi. Mais ma compagne, en 10 ans, elle ne m'a jamais vu pleurer. Ça, c'était avant.
T'as ouvert les vannes aujourd'hui ?
C'est ça. Mais ben, autant pour des choses tristes que joyeuses, tu vois.
Qu'est-ce qui faisait que tu t'empêchais de pleurer avec le recul ? Sans pour autant tomber dans « je suis un bonhomme », tu vois. Parce que j'imagine bien que ça, c'est pas ce qui se passait en toi. C'est ouais, un truc émotionnel à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'empêchait d'ouvrir les vannes avec le recul ?
Alors, je sais pas. Peut-être la capacité à relativiser beaucoup, tu vois, par rapport à ce que je voyais au boulot. Je me disais, bon, il y a toujours pire. Et puis, si je commence à être trop émotif face à des enfants maltraités, victime de violence, je ne vais pas être très aidant. Peut-être que j'avais cette armure, donc ce costume d'éducateur que je mettais, hop, invincible.
Mais que tu aurais pu enlever en rentrant chez toi le soir, mais tu le gardais, quoi, pour le coup.
C'est vrai, j'y arrivais pas.
Okay.
Donc, sans doute une façon de me protéger. Mais tout ça, ça a sauté. Et la grossesse, je l'ai super bien vécue, malgré le fait que ce soit compliqué. Parce que... on a mis un petit peu de temps à avoir Basile, c'est le prénom de mon fils, avec Cassandre, le prénom de ma compagne. Ça n'a pas été facile, comme je disais. Au départ, bon, on a essayé, on s'est dit, bah, ça y est, on est prêt, on y va. Bon, ça ne marche pas, ça ne vient pas. Bon, on attend. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, on a fait des analyses, etc. Et alors... ma compagne avait un petit problème. Alors, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, j'écorche peut-être. Ouais. Mais ce qui fait que ça pouvait marcher, mais c'était vraiment avec une faible probabilité. Fallait un petit coup de main. Donc, on manque de bol. 2020, le Covid. Et pas facile d'avoir eu ce petit coup de main dans un centre de PMA. Les lits étaient tous pris pour le Covid, donc ça a traîné, et puis... Mais ça a marché du premier coup. Donc, voilà.
Et cette période d'attente, alors, comment ça se passe dans votre couple, entre vous ?
Ça se passe bien.
Ok.
J'ai encore mon armure, donc...
c'est plus simple.
C'est plus simple.
Toi, de là, moi, ça va.
Ouais, moi, ça va.
Et Cassandre, comment elle vivait le truc, elle ?
Assez difficilement, parce que, bon, ben... pour ceux qui connaissent, c'est un peu violent. Elle est obligée de se faire des piqûres. Et puis, il faut y croire. Et là, ça ne marche pas. On y croit. Ça n'a pas marché. On n'y croit plus. Il faut se relancer. Moi, j'étais avec un optimisme à toute épreuve. Et j'ai essayé de lui transmettre. Mais bon, elle, c'était plus dur. Et peut-être... voilà. Mais moi, j'y croyais à fond. Donc, je savais que ça allait marcher. Enfin, j'essayais de me persuader que ça allait marcher, mais j'y croyais, quoi. Et puis, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Mais je ne suis pas croyant, mais j'avais la foi. Et puis, un beau jour, voilà, on nous annonce qu'il y a une place. Donc, on y va, la chose se fait, et on attend. Cassandre était sans doute au travail, à la maison, elle était en télétravail. Moi, je rentre du bureau, et puis je vois sur la cuisine, là, le bar de la cuisine, une petite boîte. Bon, avec « ouvre-moi ». Bon, là, je commence à cogiter, je crois comprendre, mais besoin d'ouvrir cette boîte-là pour être sûr. Et puis je vois le test de grossesse. Avec marqué, si t'as pas compris, tu vas être papa. Donc là.
C'est trop mime ce qu'elle t'a mis.
Parce que
au cas où.
Tu sais, deux barres. Oui, il y a deux barres, quoi. Enfin, je sais même
pas
si.
T'aurais pas mis un test de grossesse négatif dans une boîte. Ouvre-moi. Eh bien non, c'est une erreur. C'est négatif.
Poisson d'avril.
Oui, c'est ça.
Pas drôle. Non. Non, mais. Oui, c'est vrai que c'est idiot. C'est. C'est la première fois qu'elle m'a vu pleurer. Donc, tu vois, moi, je vois le truc, je commence à suffoquer, à avoir du mal à respirer.
Ah ouais, donc,
grosse émotion. Ouais, grosse émotion. Et là, voilà.
J'ai... Émotion ou crise de panique, là?
Ah non, émotion.
Ouais.
Okay. Ah non, non.
Quand tu dis que tu suffoques, je me dis, j'arrive plus à respirer. Je...
Non, non, bah, submergé par l'émotion. Et puis, bon, bah, voilà. Et non, non, c'était une délivrance. Parce que, oui, ce que je t'ai pas dit entre temps, c'est que c'était une grossesse un peu à risque, inquiète, quoi. Puisque Basile, dans le ventre de Cassandre, n'était pas bien positionné. Donc, on savait que l'accouchement, si la tête n'arrivait pas en premier, ça allait être compliqué. Et bon, on a tenté des choses. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Bon, on essaye de faire bouger le bébé pour une inversion, je crois. Bref, ça n'a pas marché. On est même allé faire de la médecine chinoise, où tous les soirs, je lui faisais brûler un petit bout d'encens près de l'orteil. Alors, voilà. On nous a dit que ça pouvait marcher.
C'est chinois.
Ouais. Eh ben,
ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Mais on faisait ça tous les soirs et on a tout fait. Moi, je prenais plaisir à toutes les étapes, même la sage-femme. J'aimais bien être présent, en tout cas. Après, faire l'abeille, un peu moins.
Faire l'abeille?
Ah bah oui, alors on dit qu'il faut faire ça à l'accouchement pour une femme, enfin, bzzz, et que ça détend. Non, t'as jamais entendu ça.
Écoute, bientôt 200 épisodes de ce podcast, je découvre encore des trucs. Faire l'abeille, alors ça j'ai jamais entendu ça.
Ah oui, alors...
Tu faisais quoi? Tu faisais bzzz?
Alors, bon, à la base c'est la mère qui doit faire ça,
okay.
je sais plus pourquoi. Mais quand tu fais la séance de prépa, bah tu fais tout comme la mère, donc toi aussi tu fais l'abeille.
Ah yes.
Et après, elle t'interroge, comme à l'école.
Ah bah moi, j'avais entendu parler des exercices de respiration, le fameux petit chien. Donc ça, le petit chien, je l'ai, tu vois. Mais l'abeille, je t'avoue, je ne l'avais pas, quoi.
D'accord, bah okay. je te donnerai l'adresse. Hein, pour pas que les gens y aillent. Mais... Non, gros moment de solitude à ce moment-là. On se regardait entre pairs. Ben heureusement, on avait le masque à cette époque-là. Donc ça nous évitait d'éclater de rire. Mais...
Ouais.
Et oui.
C'est pourquoi c'est pour faire vibrer, c'est ça?
Oui.
Je sais même pas comment. Ouais.
Bon, je pourrais plus te dire, j'étais pas un bon élève. Et après, elle te demande, et là, qu'est-ce que tu ressens? Bah, rien, madame. Comme si ça devait débloquer des choses. Donc, mais j'ai quand même adoré faire ça, alors que. Enfin. Mais j'étais à fond, donc. Donc, la grossesse se passe.
Et tu disais que t'avais pleuré, donc, à l'annonce.
Ouais.
Et t'expliquer que, enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un truc en rapport avec que cette émotion était venue de faire quelque chose en particulier. Non? Je me trompe?
Alors, j'étais hyper heureux, mais c'était pas encore l'angoisse. Mais ça m'a rempli de bonheur. Enfin, je commençais déjà à me dire que j'allais être daron, mais là, ça se concrétise davantage. Enfin, c'est un projet qui prend forme. Et c'était que la première étape, quoi.
OK.
Et, mais c'était déjà un soulagement. Et puis de voir ma compagne heureuse, enfin, c'est un bonheur qu'on a partagé à deux. Mmh. Puis, voilà, donc elle m'a vu pleurer pour la première fois depuis 10 ans. Mais moi, ça m'allait. C'était des belles larmes, quoi. Donc non, si j'avais un doute sur le fait que je voulais te perdre, là, je ne l'avais plus, quoi.
OK.
Donc, aucune angoisse à ce moment-là. Bon, après, on passe à l'étape suivante.
Bah ouais, si tu veux.
Voilà. Donc, la naissance. Donc, bah, je me souviens de cette nuit, mais je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, Cassandre me réveille. Et puis, elle me dit, oh là là, je vais dans la salle de bain, ok. Bon, bah... Je perds les os. Ok. Et là, on venait de se coucher à peine. Il n'était même pas minuit. Et bon, on appelle et ils nous disent, bah, ok, venez. Bon, alors moi, heureux comme tout, je commence à filmer. Je me dis, bah, ça fera des souvenirs pour les petites. J'étais à fond. Mais
avec de la télé-réalité.
C'est ça. Ok. Bon, après, il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, mais... Je sais même plus si je l'ai, tu vois, c'est film encore, mais je me suis dit, mais c'est un moment magique, tu vois. Là, à ce moment, je mesure déjà, quoi. Alors, on fonce. Et on nous dit, bon, bah, ok, mais pas de panique. Va falloir patienter un peu, quoi. Ok. On patiente et on patiente. Beaucoup, 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 beaucoup. On nous met dans une petite chambre, on attend. Et au final, avant que Basile pointe le bout de son nez, il passe quand même 24 heures. Ouais. Je sais pas si c'est classique, mais pour apprendre mieux.
Il y a tout, hein, ah, tu vois, vraiment. Hein.
Mais même cette attente-là, moi, je la kiffe, quoi. Une petite maternité sympa, avec une petite salle cafette, avec des palmiers partout, même si on est en Bretagne. Mais un petit jardin intérieur, là, très sympa. J'y allais prendre mon café, je faisais des allers-retours jusqu'à la chambre. Et puis, à un moment donné, bon, ça se précise. Là, je commence à angoisser.
Ah, déjà là, sur le moment.
Ouais. Je commence à angoisser parce que je suis quand même pas à l'aise avec le milieu médical, un peu hypochondriaque. Et ben, ça peut mal se passer aussi, quoi. Et puis, ben, il allait naître, Basile, dans des circonstances plus délicates. On appelle ça par le siège, donc les jambes en premier. Donc, bon, on nous dit que c'est plus à risque. Maintenant, je vois que le personnel est au top, hyper rassurant, pas de soucis, ça me rassure un peu, mais... peur quand même de tourner de l'œil, quoi, parce que moi, le sang, si on fait, tu me fais une prise de sang, je tombe dans les pommes, donc non, pas possible.
Mais tu sais, t'as toujours ce truc où tu finis par tomber dans les pommes parce que t'as peur de tomber dans les pommes.
Ouais, c'est ça. Mais oui. Et en fait, bon, non, je vais bien. Cassandre aussi, hein, c'est l'essentiel, mais... Ça se passe pas si facilement que ça parce que la péridurale ne marche pas, donc elle a hyper mal. Donc moi j'essaye de voilà la bichonner quoi. On me dit que je peux passer de la musique. Alors je commence à passer de la musique, j'avais pas prévu, donc c'était sur mon téléphone, sur Spotify, mais avec les pubs, bref, le stress. Bon, j'étais pas prêt là, mais au final les choses arrivent, les choses basiles arrivent. Et puis le personnel est au top, quoi. Vas-y. Enfin, ils lui parlent, ils lui disent mais tu t'en sors super bien. Moi, j'ai trouvé ça hyper touchant et hyper rassurant. Bon, s'ils sont pas stressés, pourquoi je le serais? Peut-être parce que je suis le père, mais. Mais au final, il arrive et il est bien. Enfin, je veux dire, il sort.
En bonne santé, il va bien.
Ouais, mais hyper fatigué. Ce qui fait que l'œil commence un petit peu à s'agiter. Alors, on a juste le temps de faire connaissance que oh, là, mon petit coco, il va falloir un petit peu que tu t'agites. Enfin, il était un peu froid parce que ça avait été hyper...
hyper long. Et
ouais, pour lui, tu vois, ouais, ça l'a fatigué. Ouais. Donc là, ben, si ça ne va pas mieux dans une minute, on t'emmène ailleurs pour te réchauffer. Bon, là, gros coup de stress. Bon, j'ai oublié de dire qu'entre-temps, là où je ne me voyais pas du tout couper le cordon, au moment où on me l'a demandé, bah, c'était une évidence, quoi.
Ah, yes.
Ah, j'ai pris sur moi, pas trop, en fait, mais j'avais envie, quoi. Je me dis, bah, c'est peut-être ça qui, comme une inauguration, tu vois, concrétiser le fait que je suis père, c'est-à-dire je suis père, je coupe le cordon. Et puis, au final, il se reprend, il récupère, et bah, là, on profite un peu de lui. Et là, je repleure. Enfin, forcément, là, délivrance, tout va bien. Je le prends dans les bras pour la première fois. Et, ça y est, hein. Je suis père. Et je me surprends. Enfin, j'ai toujours pensé qu'un bébé, c'était pas forcément très beau à la naissance. Mais, alors, ce qui doit être vrai, mais sauf le mien. Parce que là, je me surprends à me dire, mais c'est pas normal que c'est aussi beau que ça, quand même. Bon, après coup, j'y réfléchis. Bon, j'ai mon regard, mon filtre de papa, mais je l'ai trouvé magnifique, quoi. Bon, sans doute que c'était vrai, mais pas plus qu'un autre, sauf que c'était le nôtre, quoi.
Bah,
avec
oui.
Cassandre, et bon, voilà, on est heureux, mais fatigué, quoi. Mais bon, on passe un petit temps avec lui après dans notre chambre, enfin, plutôt dans la chambre de Cassandre, puisque toujours Covid, moi, j'apprends que bah, je peux pas rester.
Faut que tu partes.
Faut que je parte. Donc, bon. Pas trop cool, mais enfin, c'est quoi? C'est comme ça, quoi. Mais quand même un peu soulagé aussi, si je veux être honnête, de pouvoir dormir. Parce qu'il y a un truc, moi, qui me. Enfin, que j'ai du mal à supporter, c'est le manque de sommeil. Donc, ça.
Bah ouais.
Quand t'es papa, Il va falloir.
C'est bien parti, hein.
Ouais. Donc je rentre à la maison et puis après j'y retourne les jours suivants et je donne le premier bain à Basile. Puis on fait vraiment connaissance et ouais, c'était devenu une évidence, quoi. Cet amour et ce sentiment d'avoir choisi, enfin d'avoir fait le bon choix, tu vois, en devenant père, parce qu'au final, bon, on peut dire que c'est un choix, mais je savais que j'allais pas le regretter.
C'est mieux quand c'est un choix.
Ouais, ouais. Et je savais que j'allais pas le regretter, en tout cas, et voilà, donc...
Ok. Et sur cette base-là, ça a l'air d'avoir été plutôt cool pour toi, malgré ton hypocondrie, malgré...
Ouais, tout ça, ça passe.
Tout ça, c'était cool. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu finis par rentrer vraiment dans le dur, quoi? Là, c'est plutôt le côté boulot, c'est ça?
Alors, ouais, c'est quand j'ai repris le boulot. Parce qu'avant, bon, j'avais... donc maintenant, le congé pater, c'est un mois. Donc, t'en profites pendant un mois, je l'ai pris direct. J'avais un petit peu de vacances, nickel. Et puis, ça arrive l'été, revacances. Et puis, je retourne au boulot. Donc, toute cette première partie, là, elle était chouette, quoi. Pas de soucis, on apprend à être parent avec Cassandre. Pas stressant, c'est plutôt cool. Et puis, je reprends le boulot, les situations difficiles. Et puis, je vois de moins en moins de sens... à m'occuper des enfants des autres, en quelque sorte, ou à accompagner les enfants des autres, parce que je m'en occupais pas. Et j'ai puis des situations très difficiles à gérer. Et maintenant, j'avais ce regard de père.
Oui, j'allais te dire, tu vis sans doute plus les trucs la même façon, quoi.
Là où j'arrivais à prendre de la distance, mais de fou, quoi. Pouvoir discuter avec un père qui avait abusé de ses filles, enfin, d'une de ses filles, c'était pas plaisant, mais je pouvais avoir une attitude professionnelle, plus ou moins.
En tout cas, pour bien faire le travail, il fallait garder cette posture-là, quoi, j'imagine.
C'est ça. Ouais. Et avec ce nouveau regard de père, bah, plus possible. Plus possible.
Ça te baise la vie. Hein.
Ah, oui. Mais oui.
Ce filtre-là.
Je l'ai plus. Et j'ai plus envie de l'avoir. Et je me suis retrouvé dans une situation où le père avait tellement tabassé sa petite fille de 6 ans qu'il l'avait envoyée à l'hôpital. Parce que sa petite fille, voyant son chien se faire tabasser, s'était roulée en boule autour de son chien pour protéger son chien. Et son père a continué à lui filer des coups de pompe.
Non, mais vraiment.
Ah non, mais je te dis, quand je te dis que j'ai vu le pire du pire, voilà. Et ça, je pouvais plus. Je n'ai plus réussi à voir ce père-là. Et j'ai dit non, moi je peux pas. Je vais pas y arriver.
Alors que t'étais tout jeune papa, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas comme si il y avait eu besoin d'un entraînement, entre guillemets, à devenir père. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc en toi qui a switché, quoi.
Ouais, totalement, ouais. Mais ça devenait incontrôlable. C'est-à-dire que quand la mère qui avait subi des violences, qui s'était séparée de cet homme-là, me racontait des scènes où le gamin voulait pas manger et que le père l'avait sorti de sa chaise de haute en le tirant par le cou. Tu vois? Et là, j'ai serré le poing. Elle me racontait ça, mais j'avais envie d'être violente.
T'avais envie de violence.
Ouais. Et je me dis, je peux plus le revoir. Bon. Et oui, effectivement, c'est devenu comme ça. Ça a switché, mais totalement. Parce qu'avant, ce genre de situation, j'aurais pu gérer. J'aurais pu prendre la distance. Mais là, je vivais le truc, mais comme si c'était mon gamin. Donc, des nouvelles lunettes, mais plus trop compatibles. Et du coup, je vivais mal mon métier. Et j'arrivais plus à prendre la distance et petit à petit le manque de sommeil beaucoup, j'étais plus trop lucide, quoi. Donc j'ai fait concrètement un burn-out et c'est cette période là qui a été difficile à gérer parce que en plus de cet état fragile au travail, j'ai commencé à avoir des angoisses mais en lien avec mon passé, donc une obsession, quoi. La peur de mourir. Et en fait, perpétuer la malédiction familiale que je meurs et que je laisse mon petit Basile tout seul, quoi. Pas tout seul avec sa mère, mais en tout cas que je sois plus là pour lui. Là, c'était vraiment hyper envahissant.
Tous les jours.
Ah ouais, tous les jours.
Mais t'avais peur de mourir.
Ouais. À tel point que je commençais à me dire, ah ouais, mais je pourrais peut-être enregistrer des petites vidéos, tu vois, pour l'accompagner à chaque étape de sa vie, si jamais je venais à mourir.
Ouais.
Tu vois, mais je raisonnais plus normalement, là. Elle me dit, bon, bah, je vais faire un petit film pour son mariage. Bah, super glauque, quoi, mais...
Incroyable.
Ah ouais, mais je l'ai pas fait, hein. Parce que
bon, ça aurait été une bonne idée. En fait, je trouve que c'est une bonne idée de faire une capsule temporelle, tu vois, mais pas partir du principe que mon fils, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que je ne suis plus là, quoi.
C'est ça. Ouais, exactement. Parce que, et là, je me suis rendu compte que je ne vivais pas l'instant présent. Je reliais le passé au futur, mais sans passer par le présent. Et là, je me suis dit, peut-être que tout seul, je ne cogite plus trop bien. Je vais commencer à rencontrer un psy. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai trouvé, pas du premier coup, mais un super bien. Je suis d'abord allé voir un gars qui m'a dit, bon, c'est simple, ce que vous avez, première séance, hein. Ça va être vite vu, c'est la relation à votre mère. Ok, j'avais parlé de ma vie, le complexe d'Oedipe non achevé, bon, bah, il me dit, en 8 séances, c'est réglé. Thérapie brève, bon. Bon, puis je vois que c'est un charlatan, et je demande à des copines du boulot là qui sont psychologues voilà, de me filer une vraie adresse, quoi.
Ouais, faut se faire recommander, hein.
Ouais, carrément.
C'est important.
Ah, mais c'est essentiel, en fait.
Mais ça nécessite de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire d'aller demander de l'aide à des gens.
Ouais.
Ce qui n'est pas forcément très simple quand tu es dans une période difficile, quoi.
Ouais.
Ça a été, toi?
Ouais, hein? Ça a été, ouais. Parce que, de par mon métier, j'ai l'habitude d'être dans une relation d'aide, alors souvent de l'autre côté, plutôt.
Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas du tout pareil.
Ah bah non, c'est pas pareil, mais...
Il faut que tu reçoives.
Ouais, mais bon, pour moi, ça me paraissait assez... Enfin, c'était assez logique, au final. On est rarement seul avec ses angoisses au travail. On a beaucoup de réunions, on parle entre collègues, de situations à des psys, et puis on a des fois ce qu'on appelle les supervisions, donc on se livre déjà un petit peu. Bon, non, et puis moi je conseillais des fois aux parents de se faire aider aussi. Et donc ça ne m'a jamais posé question.
Okay.
Et donc j'y suis allé, j'en ai trouvé un super bien que je vois toujours, et il m'a soutenu sur ses grosses angoisses, à mettre un petit peu plus de distance, puis à me recentrer sur le présent, parce que il faut quand même se rappeler que qu'il faut vivre cet instant-là qui n'arrive qu'une fois, quoi. Enfin qu'une fois la petite enfance. Enfin,
ouais, bien sûr.
Tu vois,
ça part à toute vitesse.
C'est ça. Et on s'en rend pas compte. Mais étrangement, j'avais ces angoisses-là, mais pas en permanence. Et j'ai quand même kiffé ces deux premières années à fond parce que. En fait, dès que je suis avec Basile, je suis bien. J'ai plus ces angoisses-là, j'y pense pas, il est devant moi. Donc, c'était pas non plus omniprésent en permanence. C'était plus le soir ou quand il était après à la crèche. Mais j'ai réussi à mettre tout ça de côté, grâce au travail de psychanalyse, tout ça. Et puis, en laissant tomber le boulot aussi. Et puis, en me disant, bon, allez. Ça va, j'ai donné 20 ans dans le travail social, mais peut-être qu'aujourd'hui je suis fatigué aussi de ça. Toujours être dans des conflits qui ne t'appartiennent pas. Et puis c'est compliqué des fois d'aider les parents à prendre de la distance. Un conflit, souvent c'est la faute de l'autre quand on n'est pas prêt à se remettre en question. Bon, et ça me fatigue un peu. Bon, et ben on passe à autre chose. En tout cas au niveau professionnel. Et puis là je suis en train d'explorer des pistes. Et
comment ça se passe ta vie de papa là?
Eh ben, j'ai envie de dire, on ne peut mieux, honnêtement. Enfin, j'ai un amour pour mon fils, mais je me demande si à un moment il y aura une limite, quoi, parce que j'ai l'impression que j'aime encore plus. Enfin, mais je suis un grand fan.
Un grand fan de mon fils.
Ah ouais, mais alors pareil, hein, ça y est, je le trouve plus le plus beau. Il est à égalité avec les autres. Mais je le trouve plus intelligent que tout le monde. Et je me déteste à dire ça parce que j'avais déjà des collègues qui parlaient de leur enfant. Ah, ma fille, elle a 4 ans. Là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle est intelligente? Je dis, mais calme-toi, elle a pas inventé le vaccin contre l'âge, quoi. Elle prend pas du crack, ok, mais enfin, c'est pas non plus. Ça va. Mais
Et t'es tombé dans cette équipe-là maintenant, c'est ça?
Bah ouais. Ouais, bah alors je suis du papa qui a son fils sur son portable, en photo, et qui l'applaudit dès que. Mais non, je suis un. Ouais. Je suis quand même pas tombé à faire comme certains parents font, à l'imiter avec sa petite voix. Ah ben, Basile, il a dit ça. Non, il n'y a pas moyen.
Mais alors, je me demandais un petit peu, je ne reçois pas beaucoup de darons de 40 et quelques balais, quoi, tu vois, excuse-moi le terme, mais des vieux darons.
Ça me va.
Je me demandais un petit peu comment tu vivais le fait d'avoir fait cet enfant un peu tardivement dans ta vie, en fait, par rapport à peut-être des amis que tu as autour de toi, qui ont pu faire leurs enfants à 30 piges, qui ont peut-être aujourd'hui des ados, alors que toi, tu es encore ton tout petit, là. Comment tu vis tout ça? Comment tu le regardes avec le recul aussi?
Donc, tu as bien résumé. Oui, j'ai pas d'amis qui ont des enfants aussi jeunes. Et je me sens un peu seul de ce côté-là. Heureusement, Cassandre a des amis plus jeunes qui ont des enfants de cet âge-là, donc je partage quand même des préoccupations de daron avec des amis qui ont... Mais effectivement, cette question de l'âge, elle m'impacte plus en me projetant vers l'avenir, en me disant Basile, quand il aura 18 ans... Alors attends, j'avais fait... Bon bref, moi dans 18 ans, j'en
t'auras 62 quoi, c'est ça? Si je me trompe pas, tu l'as eu à 44.
45. Non, 47.
47.
Alors attends.
Allez, 65. Allez, hop.
65.
Ah, j'ai fait la queue, moi.
ça aide. Et donc je me dis, c'est peut-être plus à l'adolescence où moi ça me fait pas peur de mon côté, mais je me dis, est-ce que lui, ça va lui faire honte, tu vois, d'avoir un père aussi vieux? Ou peut-être même déjà avant. Est-ce que mon fils aura honte de ça, tu vois? Mais c'est qu'une question. Ça me traumatise pas. Okay. Mon fils, on va quand même l'élever. en essayant de le rassurer sur ses côtés. Puis qu'il puisse aussi être libre de dire ce qu'il ressent. Moi, ça me ferait... S'il me le dit, voilà, peut-être qu'à un moment, je le ressentirai aussi, quand il ne voudra plus que j'emmène à l'école. Mais...
Oh, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois vieux ou pas, hein, t'inquiète. Ouais. Il y a un moment donné où juste il va dire, allez, ciao. Ciao, c'est pas parce que t'es vieux ou pas, c'est juste parce que t'es mon daron.
Bon, ça me rassure un peu, mais...
Oui, ça viendra vite en plus, tu vas voir.
Pas trop quand même.
Non, mais avant le collège, quoi, tu vois, moi mes filles, dès qu'elles pouvaient, à 8-10 ans, elles étaient là, allez, laisse-moi la fameuse au coin de la rue, quoi.
D'accord.
Je veux pas que tu m'amènes à la grille, quoi.
Bah, ce qui paraît, 8 ans, c'est l'âge où justement le père ou la mère n'est plus un super-héros, c'est ça? Où on commence à juger l'autre, son parent, quoi, ses parents. Et la première étape a passé, mais bon... Après, moi, je suis convaincu.
Non, je veux juste te dire que ça sera pas parce que t'as quelques années de plus, quoi.
Bon,
tu vois.
Ok.
Je crois.
Ben écoute, on en reparle dans 8 ans. Mais après, je pense que je me prépare à tout ça, mais j'ai pas trop envie de me projeter parce que je sais qu'autrement, je vais ruminer, je vais m'inquiéter pour rien. Je me recentre un petit peu sur le présent. Et je suis assez convaincu d'une chose, c'est que en communiquant, tu vois, depuis toujours, depuis la petite enfant jusqu'à... de façon sans tabou, saine. Je pense qu'on peut désamorcer pas mal de situations, anticiper sur ce genre de petits tracas.
Donc, il y a 15 ans, tu étais prêt à faire des enfants?
Non.
Non, de toute façon, c'était pas un dossier dans ta tête.
Non, j'étais... déjà, il fallait trouver la bonne personne.
C'est juste, effectivement, une très bonne remarque.
Et j'ai toujours eu du mal à avoir des histoires longues. Enfin, l'engagement me faisait peur. Cassandre est la première à qui je me suis véritablement engagé. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, c'est bon, je te valide.
Putain, 10 piges la meuf. C'est quand même une très longue période d'essai. Hein.
C'est ça.
T'imagines, tu signes un CDI, rendez-vous dans 10 ans, je te validerai à ce moment-là.
Je fais un entretien annuel tous les ans.
Mais c'est ça.
C'est bon, je te garde. Non, sérieusement, voilà. Cassandre n'était pas non plus pressé. Et puis, entre-temps, on a une passion pour le voyage et on en a profité pour vraiment beaucoup voyager. On savait que ce serait plus compliqué qu'un petit. En tout cas, de voyager loin. Mais après... on s'est dit que c'était le moment. Mmh. Et au final, bon, je tiens aussi à rassurer ceux qui aiment voyager et qui se posent la question. Mmh. On voyage différemment. Voilà, on organise bien les choses, mmh. mais tu vois, le petit Basile a pas encore 2 ans et on est déjà allé dans 3 pays.
Ah ouais, vous l'avez déjà baladé.
On l'a déjà baladé, cool. Et c'est génial. Et c'est là que je me dis, mais en fait, voyager seul, c'est bien. Ça me dérangeait pas avant. À 2, c'est encore mieux. Mmh. Mais à 3, ben en fait, puis surtout avec un tout petit, tu redécouvres les choses simples de la vie, quoi. T'as plus besoin d'aller au bout du monde. Tu peux aller à 50 km de chez toi, mais le petit, il découvre tout, quoi. Et quand tu vas à l'étranger, il découvre la nourriture et découvrir tout ça avec lui. Mais je peux pas être plus heureux. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour moi, la paternité, c'est un voyage. Et voyager... avec un enfant, mais je peux pas. Enfin, pour moi, c'est le summum. Mmh. Quoi. Mais ça n'a pas toujours été. Je reviens peut-être sur les difficultés. L'idylle, quoi. Enfin, je suis passé par des moments où ça a été très compliqué, mes angoisses, et c'était un petit peu tendu dans le couple. Alors, Cassandre a été hyper à l'écoute, mais.
T'avais peur de quoi?
Et en fait,
de mourir, c'est ça, à l'époque, c'était dans...
Pas que.
Ok.
Mais j'avais aussi besoin, mais ça je ne l'avais pas dit, je me suis rendu compte que je devais lui dire, j'avais des doutes sur le fait que j'étais un bon père. Alors que j'allais l'être, je ne sais pas, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre, mais voilà, tu es un bon père, d'être rassuré là-dessus, ouais, tu fais bien. Et bon, Cassandre me le montrait peut-être, je voyais pas les signaux, mais elle le disait peut-être pas.
Bah oui.
Et c'était un peu tendu. Parce que moi, j'entendais quelque chose d'elle, mais elle savait pas que j'attendais ça.
Bah oui.
Donc, j'avais quelques notions par mon métier de communication non violente. Et je me suis dit, bah ouais, tiens, ce bouquin que t'as lu, là, il faudrait peut-être que tu t'en sers.
Mettre en application dans ta vie perso,
ça.
Quoi.
C'est bien de donner des conseils aux autres, mais applique-les. Donc, j'ai dit, mais ce besoin-là, si ça se trouve, elle l'a pas identifié. Donc, je vais lui dire que j'ai besoin de ça. Et. Je lui ai dit, et puis après, ça a désamorcé le truc, et elle a pu me rassurer là-dessus, mais voilà, dans le doute de toutes ces angoisses, et puis ce manque de sommeil, mais ça revient, et ton cerveau, il est peut-être plus, tu vois, aussi, t'es peut-être plus aussi lucide, quoi. Et tu t'attaches, peut-être, moi j'étais sur des détails.
Oui, mais c'est pour ça que les 2 premières années sont super complexes, c'est que tant que ton enfant ne fait pas des nuits complètes, c'est compliqué, quoi. Le manque de sommeil, ça finit par taper sur le système.
Ah, mais totalement. Et là, c'est toujours difficile. Hein. Mmh. Tu vois, c'est des réveils à 2h, 3h.
Ah ouais.
Ouais, et puis, bon, alors que tu vas dormir avec lui dans sa chambre, au pied du lit, sur un petit matelas, parce que dès que tu pars, il le sent. Il
ah ouais.
Un sixième sens. Mais non, c'est dur. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Mais après, tu t'y fais aussi. Donc, mais c'est pour ça, on te donne des conseils quand t'es pas papa, ou tu l'entends dans des podcasts. Dormez avant parce que ça va être horrible. Bon, tu le sais, mais tu le sais pas.
Ouais, il faut le vivre pour soi-même, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Il y a d'autres qui le vivent mieux, mais pour moi, c'est vraiment... ça a été dur, ouais.
Mais rappelons que la privation de sommeil, c'est quand même une technique de base de torture. Hein, donc,
c'est ça. Ouais. Et puis, au départ, c'était assez violent pour moi aussi, les pleurs. Parce que tu te sens un petit peu impuissant. Enfin, inconsciemment, tu relis ça à une sorte de souffrance, qui n'est pas le cas. Hein. Mais tu le vis comme ça au moment... Enfin, moi, je le vivais comme ça au moment où Basile pleurait. Et ça m'angoissait un peu. Mais j'avais trouvé une technique pour rester zen un peu. Je mettais des boules caisses. J'ai appris par la suite que j'étais pas le seul à faire ça.
Bah oui, bien sûr.
Si
t'es agressé par le bruit, il faut faire en sorte de le réduire, quoi. Ce qui t'empêche pas d'entendre ton enfant en plus, par ailleurs.
Exactement.
Quand il pleure.
Mais quand je disais ça à certaines collègues au boulot, là, éducatrices, elles me disaient mais comment, c'est honteux. Ok, mais moi je. Bon, je n'ai pas le même point de vue que toi, mais c'est surtout que ça me permet, à ce moment-là, tu vois, de rester zen. Vas-y, pleure, je m'en occupe. J'essaye de trouver la réponse à ses pleurs, donc changer la couche, biberon, tout ça. Mais je m'énerve pas.
Bah oui.
Donc, bon, moi, cette technique-là, je la valide quand même.
Franchement, et puis c'est ta technique, hein, et puis il n'y a pas de recette. Hein, donc, en fait, tant que tu t'isoles pas et que tu n'entends pas ton enfant, tu vois, c'est ça aussi le problème des... Si tes boules qui sont trop fortes et que tu l'entends pas, effectivement, ça peut le mettre en danger, mais là, ça va, quoi. Et si c'est une bonne façon pour toi de te faire redescendre le stress, c'est cool.
Carrément, et puis, quand t'élèves un petit à deux, il y a le relais. Donc, avec Cassandre, à ce moment-là, on se passait le relais. Et puis, je me suis rendu compte, mais à quel point ça pouvait être extrêmement déstabilisant. Le jour où, par exemple, elle est partie à un mariage, en Allemagne, mariage de sa cousine, et elle m'a laissé Basile en responsabilité pendant 3 ou 4 jours.
Eh ben, quel âge il avait ?
4 mois.
Ah ouais, ouais.
Cool. Donc, j'étais fier, j'étais entre l'excitation et la oulala, ce que je vais assurer, quoi. Mais ça a été un week-end où je suis passé par des phases, mais je suis passé du... de c'est trop bien, mais tu vois, j'ai pleuré de joie à ce moment-là, parce que j'avais le petit sur moi, il s'endormait, c'était trop beau, quoi. Et puis d'autres phases où je pleurais parce que je voulais dormir et que là j'y arrivais pas, c'était pas possible, et il pleurait et je comprenais pas, il avait sa couche propre et là j'ai pleuré de fatigue, quoi, d'épuisement.
Mais tu te sentais en échec quand c'était comme
aussi,
ça?
Aussi, ouais. Ah bah ouais. Alors, je me sentais nul, quoi. Et puis, en manque de sommeil, donc toutes tes émotions sont exacerbées, en haut comme en bas. Mais ça a été un week-end où j'ai pris beaucoup de plaisir, mais ça a été aussi difficile sur la longueur, quoi. Donc j'étais quand même content que Cassandre rentre, mais c'est là... Je me suis dit, je pouvais assurer quand même aussi.
Bien sûr.
Mais.
T'en doutais un peu ?
Oui. Ouais. J'avais pas encore beaucoup de recul. Mais je craignais aussi ce moment-là d'être seul. Parce que. Je savais pas si j'allais être à la hauteur.
Comment tu arrives à. Même si c'est encore. Un petit garçon, tu vois. Comment t'arrives à te projeter dans le père que t'as envie d'être, justement, sans avoir eu cette figure paternelle, sans avoir eu ton père
Alors, par élimination, je sais ce que je veux pas être. Pas mal de pères que j'ai déjà pu croiser. Parce qu'au final, c'est vrai que j'ai pas eu d'exemple... mais j'ai quand même eu des expériences en côtoyant des amis, de père, je me disais, voilà le père que je voudrais être, comme ce pote-là, ou même dans le cadre du travail, tu vois, ce père ou cette mère, c'est bien sûr. Donc, en fait, je me dis, pas de souci pour m'inventer, quoi, ma vie de père, on va y aller, c'est une expérience en tâtonnant, quoi. Mais je sais qu'il y a des principes sur lesquels je serai à cheval sur le fait d'essayer de me maîtriser, en tout cas de toujours bien parler, de prendre sur moi si je suis énervé, d'aller souffler. J'ai vraiment envie d'être... le plus aimant possible, le moins maltraitant par la parole, involontairement, parce que je ne le ferai jamais volontairement, mais toujours réfléchir à l'impact des mots. Et je vois bien à quel point c'est important, dans mon travail ou en côtoyant les enfants d'amis, de donner confiance à son enfant. Tu vois, après, j'ai aussi écouté ton podcast avec tes filles. j'ai adoré. Je trouve que elles parlent super bien, tes filles. Elles ont vachement de recul, mais même la petite. C'est étonnant comme elles sont vives, quoi. Elles sont.
Écoute, merci. Merci comme si. C'est elles, tu vois.
Oui, mais tu vois la façon dont tu parles. Bon, pour moi, c'est quelque chose de très sain. Je pense que la communication, il faut la garder du début jusqu'à la, jusqu'à la fin. Et s'il y a ça, je ne crains pas grand-chose. Tu vois, il y aura l'adolescence, il va peut-être fumer ses premières clopes.
Ouais.
Ça ne va pas me plaire, mais...
J'ai fait un podcast avec ma fille sur les clopes. Hein.
Je ne l'ai pas encore écouté.
Oh putain.
Mais je le garde.
Sacré dose.
C'est vrai. Tu l'as mal vécu.
Ouais,
en fait,
bah, en gros, bah, enfin, faut aller écouter l'épisode, ouais. Mais il y a tout un truc où, bah, moi, je vis à distance d'elle aussi, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc où elle fumait des clopes depuis longtemps sans que je le sache, sans que je sois au courant. Mmh. Et donc, je l'ai découvert déjà, c'était déjà trop tard, quoi, tu vois. Et en vrai, la tabacologue, elle a dit un truc incroyable, c'est que moi, j'avais déjà vu ma fille fumer des clopes. De temps en temps, elle se postait sur Insta, tu vois, un peu en provoquant.
D'accord.
Mais elle était avec des copains, donc pour moi, il y avait un côté, ok, elle fume des clopes de temps en temps quand
c'est
avec ses potes.
Ouais.
Mais en fait, là, elle était tombée dedans, vraiment. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, bah, la première clope, c'est déjà trop tard, quoi.
Ouais.
Faut vraiment, si vous avez vraiment une ligne de, en fait, tu vas pas fumer de clope, la première clope que vous voyez, il faut dire, ah bah non, ça c'est mort, quoi, tu vois. Et je l'ai laissé faire, donc avec le recul, c'est pour ça que je voulais aussi interviewer, j'ai interviewé aussi la tabacologue et tout, enfin, tu vois, j'ai
d'accord,
fait un peu
ah
le taf,
oui.
Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de darons qui étaient perdus aussi par rapport à ce sujet-là, quoi, qui est c'est complexe, hein, la cigarette. Mais bon, peut-être que d'ici à ce que Basile ait genre 15 ans, tu vois, ça sera plus du tout la mode, ça sera vraiment devenu hyper ringard.
Ouais, bon, on espère qu'il n'y a pas autre chose.
Ouais, ouais.
Mais bon, bah, ouais, on verra ça.
En tout cas, je sens que tu es en chemin et j'ai l'impression que tous ces angoisses, etc., ont disparu, que tu as retrouvé une forme de sérénité par rapport à tout ça, quoi.
Ouais, carrément. Ça a été une étape. Mmh. Et, mais là, ouais, la psychanalyse, là, porte ses fruits. C'est pour ça que j'ai déjà entendu des pères... sur ton podcast qui est un peu réticent, mais qui se posait quand même la question. Mais j'ai envie de dire, mais faut y aller. On risque rien.
Si tu te poses la question, c'est qu'il faut y aller. Pour moi, c'est vraiment si tu es en train de te dire, ah, mais je sais pas parce que machin, c'est qu'en fait, c'est déjà c'est acté, faut y aller, quoi. Si tu es déjà en train de te positionner, de te poser la question, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et qui cloche, entre guillemets. C'est-à-dire que juste, il y a sans doute moyen d'aller causer, quoi. Et d'aller raconter des trucs. Bon, ça t'a fait du bien, toi, en tout
ouais,
cas.
Ouais, ça me fait du bien, je continue. Mais j'apprends à regarder plus le présent. Comme je te disais, moins regarder le passé et essayer de le mettre en lien avec le futur. Bon, allez, vivons l'instant présent. Fais ton petit travail de mon côté. C'est pas à Basile de porter mes casseroles. Je parlais d'une malédiction. Bon, elle n'existe pas, je me l'imagine. Mais non, il n'y a rien d'écrit. Donc, on va l'écrire ensemble. Et puis, bon, je m'amuse à faire des petits exercices de relaxation. J'ai écouté, bah, il n'y a pas très longtemps, ton podcast là, sur quelqu'un qui faisait de la méditation. Là.
Quelqu'un qui faisait de la méditation Christophe André? Non, c'est pas ça?
Si, je sais pas. Peut-être bien. Quelqu'un qui était en Inde? Non, c'est toi qui étais là en Inde avec lui? Ouais, voilà.
Je sais plus.
Bon, pas grave. Mais je me dis que c'est peut-être aussi une clé de... Alors, attends, j'ai retenu le truc. C'est le mari de ta psy.
Ah oui,
voilà.
Oui, c'est le mari de ma psy, oui, tout à fait.
Voilà.
Alain.
Et, ouais, bah, j'ai écouté ça et bon, je me dis qu'il y a des choses à prendre peut-être aussi de ce côté-là.
Je vous mettrai un lien dans les notes si jamais vous voulez aller écouter Alain avec sa grosse voix.
Ouais, ouais. Moi, ça me permet de m'endormir facilement, cette voix-là. Mais bon, je ne devrais pas te le dire, mais des fois, j'écoute tes podcasts et bon, bah, comme je suis crevé...
Tu t'endors?
Ben ouais, parce que t'as aussi une voix qui est apaisante.
Bonjour.
Bonjour. Et souvent, je les écoute en deux fois, tu vois.
Je comprends. Salut, JR. Voilà. Allez, va faire dodo. Il est temps d'aller dormir. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Bon, écoute, je sais que tu vas me poser une question. Et je me suis dit, mais tiens, il faut dire un truc intelligent, là, un truc... Mais j'ai jamais trouvé sur...
Donc la question que je pose à tous mes invités,
c'est ça.
Si effectivement ton fiston écoute ça dans 10 ans,
ouais.
Il aura 12 piges, « Oh, salut papa !» Comment sera ?
Va faire tes devoirs.
Qu'est-ce que t'as envie de lui dire ? Qu'est-ce que t'as envie de lui dire ?
Eh ben, c'est ça. J'ai pas la réponse, mais je l'ai trouvé ailleurs. Mais parce que je me suis dit, mais elle dit quelque chose d'intelligent, mais non, bah non. Non, bah, je me suis mis la pression, mais... Et en fait, il y a une... Alors, une chanson qui me fait pleurer à chaque fois. Peut-être pas. Enfin, en tout cas, qui me rend les yeux humides à chaque fois. Ouais. Et je me dis, mais attends, il a tout dit, lui. Je sais pas si tu la connais, la chanson de Grand Corps Malade, Définitivement.
Oui, je crois avoir. Oui.
Et en fait, bon, bah, lui, il parle à son fils qui n'est pas encore né, mais il se projette déjà, voilà, ce qu'on fera ensemble, mais... ouais, faut pas que je dise les paroles parce que là, tu vois, ça va venir. voilà, tu m'as. Enfin, en gros, il dit que ça, il a changé définitivement en mieux sa vie, quoi. Mm. Et ses priorités. Et voilà, en gros, Basile, c'est ça. Mm. Tu m'as changé en mieux parce que j'accepte ma sensibilité. J'ai mis ma fierté de côté. J'ai renoué du lien avec des personnes, mais pas que des personnes, tu vois. J'étais brouillé avec ma sœur. Depuis quelques années, pas mal d'années, pour une histoire d'héritage. Mm. Mais ce n'était pas la question de l'argent, c'était la question, pour moi, du non-respect des anciens.
Ok.
Voilà, ma grand-mère, mais au final, je me suis rendu compte que c'est moi qui m'ai raconté une histoire, que ce n'est pas parce qu'elle avait fait n'importe quoi au niveau de l'argent qu'elle n'avait pas respecté. Et je me suis dit, mais attends, je suis con, mais Basile... j'ai pas le privé de ça, quoi. C'est pas à lui d'en faire les frais. Donc, on a repris contact avec ma sœur, qui est maintenant une tante heureuse, qui voit son neveu quand elle veut, et je suis plus apaisé de ce côté-là. Donc, oui, Basile, tu m'as rendu moins con. Bon, là, peut-être.
Bah, écoute, franchement, incroyable. Donc,
ouais, non, mais c'est incroyable. Puis, c'était inattendu, quoi. Enfin, ça a déclenché tellement de bonnes choses que. Le côté difficile, c'était moi, mon histoire, mais ce que m'a apporté Basile, au final, ce que je retiens, c'est que, ben, on commence un nouveau voyage ensemble, mais bien, bien beau, quoi. En tout cas, bien, bien sympa. Et on va aller loin, quoi.
Merci, JR.
Eh ben, merci.
Franchement, c'était canon.
Non, bah, écoute, je le savais pas, mais bon, ça m'a bien fait plaisir de parler avec toi. Puis, tu vois, je me dis, bon, je sais pas si ça peut intéresser, mais si ça peut. Parce que moi, ça m'a servi certains podcasts en me disant, voilà, t'es pas seul à vivre ça. Et je me dis, ben, si ça sert à une ou deux personnes, ben, on a fait le job, toi et moi.
Ça va servir plus qu'à une ou deux personnes. J'en suis sûr et certain. Merci beaucoup, en tout cas, c'était cool.
Pareil.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.